Audible Studio présente Porteur d'âme de Pierre Bordage, lu par Damien Viteka. Chapitre 1. La voix à nouveau. Le sang de Léonie se figea. Les deux techniciens en blouse blanche lui avaient assuré qu'elle ne courait aucun risque. La nouvelle molécule avait été testée sur les rats, sur les chimpanzés, puis sur des milliers d'enfants bengalis. Les effets secondaires étaient négligeables. Sensation de dédoublement, légère tendance à la schizophrénie. Elle n'avait que 4 jours à tenir. 1 500 € pour 4 jours. Ça valait le coup de supporter de menus désordres psychophysiologiques, non? Sa vie, la chienne, avait apporté bien plus que de menus désordres à Léonie. Elle s'était enfuie quelque temps après que tant de destinées lui avaient rendu ses rognures d'ongles. Elle avait pensé, avec sa candeur habituelle, qu'elle en avait terminé avec son cauchemar ininterrompu de 12 années, qu'une nouvelle vie commençait à l'aube de ses 20 ans. Mais tante destinée, la hyène, avait probablement gardé d'autres bouts d'elle, des poils, une fiole de son sang menstruel, les 3 dents brisées par les poings ou les pieds des clients sadiques, bref, tout ce qu'il fallait pour se rendre chez un marabout et jeter sur elle une malédiction. Bien que lointaine, la voix résonnait en elle avec une netteté dérangeante, comme si une étrangère, un étranger, lui parlait du fond de ses tripes. Rien à voir avec les effets secondaires évoqués par les techniciens du laboratoire. Un esprit mauvais la possédait. Une araignée emberlificotait son âme. Elle mourrait bientôt dans d'atroces souffrances et la médecine des Blancs ne pourrait pas empêcher son agonie. Pas même l'adoucir. Léonie craignait également que l'esprit mauvais ramène dans son sillage tante destinée, la mangeuse d'hommes, et Lucius, le paon, son amant aussi élégant que cruel. À la première faute d'inattention de ses 2 geôliers, elle s'était enfuie dans la nuit glacée, nue sous une chemise de laine, stupéfiée par sa propre audace. Ils avaient tellement bu après le départ du dernier client qu'ils s'étaient assoupis à même le sol, en oubliant de tirer le verrou de la porte de sa chambre. Elle les avait contournés, craignant d'être trahie par les frôlements de ses pieds sur le carrelage, les battements de son cœur, les clignements de ses cils. Deux, elle gardait l'image d'épave échouée sur le tapis du salon, fil de salive et de vomi dégoûtant des mentons, rondeur luisante et sombre sous le fouillis des vêtements, relents d'alcool flottant dans la pièce comme des remords fielleux. Habituée à son odeur, les 2 Dobermans de Lucius l'avaient accompagnée sans un grondement jusqu'à la grille d'entrée. Elle les avait remerciés d'une caresse sur le museau. Léonie avait marché jusqu'à l'épuisement dans les rues désertes. C'était terré, petite chose effrayée et tremblante, dans la cave d'un pavillon abandonné, emmitouflée dans des sacs de jute crasseux et humide. Puis, chassée de son abri au matin par la faim et le froid, alors qu'elle envisageait de revenir, tête basse, genoux tremblants et ventre en vrac, dans l'antre de tante destinée, une femme aux yeux éteints l'avait abordée et emmenée dans son minuscule appartement. Monique, la femme aux yeux éteints, lui avait servi un petit déjeuner copieux et offert des vêtements de sa fille, morte 2 ans plus tôt d'anorexie, avant de la conduire dans un centre d'accueil pour les sans-abri ni papier. Bien qu'elle parlât un français approximatif, Léonie avait réussi à se faire comprendre de ses interlocuteurs. Les clients, avec leurs mots orduriers, leurs exigences salaces et leurs couinements, avaient été ses seuls professeurs de français, les porcs. Les éducateurs avaient décidé de mettre des kilomètres entre sa tante et elle, de la transférer dans un foyer de la lointaine banlieue Est, en attendant que la commission d'évaluation des immigrés statue sur son sort. Elle n'avait pas d'existence légale pour l'instant. Selon les nouveaux critères du ministère de l'Immigration, elle se verrait proposer la nationalité française, un grand honneur, ou serait embarquée dans un charter à destination du Libéria, un pays qu'elle avait quitté à l'âge de 8 ans et dont elle gardait des souvenirs approximatifs. L'interminable claustration dans la chambre obscure du pavillon de tante destinée avait brouillé sa mémoire. Elle dévorait tout ce qui lui tombait sous la main. Tant d'années de privation à rattraper. d'un peu moins de 40 kilos au sortir du pavillon de tente destinée, elle était passée à plus de 60. C'est du moins ce que lui avait certifié Madame la docteure du foyer. Ses hanches, ses seins, ses fesses, son ventre, ses joues gonflant comme des ballons, elle s'était sentie à l'étroit dans ses vêtements d'anorexique. On avait dû lui en fournir de nouveaux, deux, puis trois tailles au-dessus. Phénomène encore plus étonnant que les 20 kilos pris en quelques semaines, Léonie avait grandi de 3 ou 4 centimètres dans la même période. Madame la docteure, une femme sèche à l'odeur fanée et aux mains rêches, disait qu'en général, les filles ne grandissaient plus après leurs 20 ans. Mais, allez savoir l'âge exact d'une Africaine entrée clandestinement en France, il fallait bien reconnaître également que la médecine n'avait pas encore déchiffré tous les mystères du corps humain. Un mois après l'évasion de Léonie, une autre pensionnaire du foyer, Lia, une gamine à la blancheur, à la maigreur et à la blondeur éblouissante, lui avait parlé d'un boulot hyper bien payé. Pas vraiment un boulot, juste jouer les cobayes pour de nouveaux médicaments. 1 500 €, ouais, je déconne pas. Tu t'y rends deux fois, la première pour prendre le médicament, la seconde 3 ou 4 jours plus tard pour les analyses de sang. T'as rien d'autre à faire que t'allonger sur un pieu propre et dégager ton bras. T'es pas obligé de baiser ou de sucer, y a pas de main baladeuse, pas de saloperie, une toute petite piqûre de rien du tout dans la veine. Tu palpes les 1 500 balles en liquide, pas de reçu, pas de bulletin de salaire, pas de charge, pas d'impôt. Tu te casses avec les thunes, ni vu ni connu, le super bon plan, quoi. Après 4 jours d'hésitation, Léonie avait appelé d'une cabine publique le numéro de téléphone que lui avait refilé Lia. Pas facile de parler avec des inconnus qu'on ne voyait pas, impossible de s'exprimer avec le visage, avec les yeux, avec les mains. On ne pouvait se raccrocher à rien d'autre qu'à ces pauvres mots. Elle transpirait entre les seins et les omoplates, le corps pétrifié par la concentration. Elle avait obtenu le rendez-vous. Elle se demande, lorsqu'elle arrive à l'adresse indiquée, si elle ne s'est pas trompée. L'aspect lugubre du quartier et le délabrement du bâtiment n'ont rien de médical, rien de rassurant. Elle finit par pousser la porte. Les deux techniciens, lunettes, blouse blanche, l'accueillent avec des sourires professionnels, les hiboux. Leur jeunesse l'étonne. Ils la questionnent un long moment, voulant s'assurer que rien ne l'empêchera d'être présente au second rendez-vous, fixé 4 jours plus tard, à 15 heures précises. La précision fait partie du protocole, vous comprenez? Elle acquiesce avec une application d'écolière passant un oral. Il lui ordonne de s'allonger sur un lit. Plutôt un cercueil métallique qu'un lit. Non, pas besoin de vous déshabiller. Il lui pose sur la tête une sorte de casque vibrant et criblé de points lumineux. Lui injecte une solution pour la détendre, puis, tandis qu'elle sombre dans une torpeur rêveuse, ils lui font une deuxième piqûre. Elle ne ressent rien de particulier. L'impression peut-être d'être traversée par une vague dont elle perçoit toujours l'écume. Les effets du sédatif s'estompent. Elle peut se lever. Les techniciens lui recommandent de ne parler de l'expérience à personne. Une guerre sans merci est déclarée entre les laboratoires pharmaceutiques. On travaille dans le plus grand secret, presque dans la clandestinité, raison pour laquelle on a choisi de s'installer dans des bâtiments frappés d'alignement. À personne, hein, sauf à quelqu'un qui, comme elle, consentirait à jouer les cobayes. Elle recevra 10% de 1 500 € pour chaque candidat venant de sa part. Les hiboux lui avaient remis un acompte de 300 €. Elle toucherait le solde après le second rendez-vous. Il l'avait observée un long moment avant de la relâcher, guettant les premiers signes de rejet. Peut-être aussi qu'il la trouvait bandante, la salope, comme disaient les clients dingues de peau noire, allait savoir avec les blancs. Quelques-uns affirmaient même qu'elle était jolie. Elle ne les croyait pas. Elle détestait le visage réfléchi par le miroir fendu et piqueté de sa petite chambre du foyer. Nez trop large, lèvres trop charnues, front trop haut, cheveux trop crépus, joues trop rondes, yeux trop noirs, air trop triste. Le souffle court, les jambes cotonneuses, Léonie jeta un coup d'œil en arrière. Elle n'aurait pas dû sortir du foyer d'accueil. Elle avait entrevu un pan de ciel bleu par la fenêtre de sa chambre. Une irrésistible envie de sentir la caresse du soleil sur son crâne et son dos l'avait poussée dehors. Lumière aveuglante, chape brûlante sur la nuque et les épaules. odeur violente, ensorcelante, réminiscence du Libéria. Elle avait respiré avec avidité la tiédeur sucrée de l'air, les parfums soyeux qu'une brise sournoise dérobait aux arbres en fleurs pour les disperser dans les ruelles bordées de pavillons. Puis, la peur avait chassé son ivresse comme les nuages le soleil. L'esprit mauvais avait certainement prévenu tante destinée, la hyène, et Lucius, le paon, qu'elle errait désormais seule et sans défense dans une rue déserte de la banlieue est. Elle tressaillait à chaque grondement de moteur, à chaque bruit de pas. Les deux charognards l'enfermeraient dans le coffre de leur grosse voiture noire, la ramèneraient dans sa chambre au volet toujours clos, la battraient avec un ceinturon ou un bâton de bambou jusqu'à ce que sa peau se déchire, la laisseraient croupir quelques jours dans son sang et sa souffrance avant de la rendre à nouveau présentable et de lui envoyer des clients, des blancs, exclusivement. Tante Destinée et Lucius ne voulaient pas d'embrouille avec les nègres de leur espèce. Ceux-là, avec leur manie de discuter les prix et de mendier des faveurs, les rats, leur faisaient perdre un temps et un argent précieux. Les Noirs préféraient de toute façon les filles blondes et défoncées venues des pays de l'Est, qui abattaient leurs 50 clients par jour dans les baraquements insalubres tenus par les mafias russes, serbes, albanaises et turques. Léonie, elle, n'avait jamais reçu plus de 3 clients par jour, des cinglés qui pouvaient disposer d'elle à leur guise pendant 1 ou 2 heures. Les tarifs allaient de 300 à 1000 euros selon les exigences, 300 pour les fantasmes ordinaires, 600 pour les amateurs de coups ou les adeptes du pipi-caca, 1000 pour les tarés qui mêlaient leurs femmes ou leurs amis à leurs ébats. Plusieurs films avaient été réalisés dans la chambre à cauchemar de Léonie. Tante Destinée disait, avec son rire d'ogresse, que grâce à elle, la négrillonne du Libéria était devenue une vraie star de cinéma. Elle avait un jour montré à sa nièce, aux fesses d'or, un petit bout de film tourné quelques jours plus tôt avec une minuscule caméra DV. La honte et la douleur avaient submergé Léonie quand elle s'était vue livrée comme un quartier de viande carbonisée aux assauts conjugués et frénétiques de 3 hommes roses et gras. Les porcs. « Tu as perdu beaucoup de ta valeur maintenant que les nichons et les poils t'ont poussé », avait déclaré tante destinée. « Tu as remboursé ta dette ». Enfin, presque. Il va falloir songer à te remplacer. Les blancs, il leur faut de la fraîcheur, une chatte et un trou du cul bien serré pour leurs petits engins. À son rire hystérique s'était mêlé le rire acéré de Lucius, et leurs deux rires avaient dansé un long moment au-dessus de Léonie. En attendant l'arrivée de la nouvelle petite nièce aux fesses d'or arrachée à la terre rouge d'Afrique, tante destinée n'avait pas redonné son indépendance à Léonie. Elle lui avait seulement rendu ses rognures d'ongles. Un simple gage, pas folle la hyène. L'inquiétude enfonçait des milliers d'épines dans la chair et les os de Léonie. Maintenant qu'elle avait goûté la liberté, maintenant qu'elle avait pris l'habitude de dormir dans une pièce lumineuse qui ne suintait ni le parfum agressif, ni les sécrétions d'hommes, elle n'aurait pas supporté de retourner dans la chambre souillée par les désirs obscènes des clients. Elle rebroussa chemin. La voix de l'esprit mauvais s'était tue, ou plutôt changée en un fredonnement à peine perceptible. Une présence sournoise, obsédante. Elle enfila les rues au hasard, incapable de s'orienter. Elle ne reconnaissait plus les façades des pavillons, ni les commerces, ni les haies, ni les petites places inondées de soleil. Léonie n'avait pas eu à réfléchir pour se rendre au laboratoire 2 jours plus tôt. L'IA lui avait donné des instructions précises et l'avait accompagnée jusqu'à la première station de métro. Mais dans cette banlieue anonyme où les rues se ressemblaient comme les peaux et les haleines des clients, elle n'avait plus aucun point de repère. Ivre de chaleur et d'odeur, elle s'était éloignée du foyer bien davantage qu'elle ne l'avait cru. Une voiture noire aux vitres teintées déboucha d'une ruelle perpendiculaire et s'avança au ralenti. Léonie la regarda s'approcher sans réagir. Aucune pensée ne traversait son cerveau lapidifié. Un déluge sonore se déversait de la vitre passager entr'ouverte. Un mélange de rap, raga, slam, muffin, funk, le genre de musique dont raffolait Lucius le paon. La voiture s'arrêta à moins de 2 mètres d'elle. a eu l'impression de hurler bien qu'aucun son, pas même un gémissement ne franchit ses lèvres. Au fond de son ventre, l'esprit mauvais remuait une barre chauffée à blanc. « Tu veux pas faire une virée avec nous, baby ?» Ce n'était pas Lucius, mais un jeune noir en t-shirt blanc coiffé d'une casquette américaine à l'envers. Un peu en retrait, dans la pénombre, le visage plus clair du conducteur, un métis aux yeux luisants et aux tresses serrées. Leurs énormes chaînes et leurs croix de platine proclamaient que malgré leur jeune âge, ces deux-là se vautraient déjà sur un épais matelas de fric. Leur inconscience, leur frime, leur vaudrait tôt ou tard de passer quelques années à l'ombre. Ou alors ils étaient protégés par les flics, comme certains clients de tante destinée qui se vantaient, les coqs, d'avoir des relations au ministère de l'Intérieur. Quelques-uns s'amusaient même à glisser un pistolet entre les cuisses de Léonie, en roulant des yeux fous et en crachant des menaces. Ils avaient déjà flingué des gens, hein, et personne, aucun petit juge à la con, aucun flic à la noix, n'était venu leur réclamer des comptes. Qui se souciait de la vie d'une pauvre négresse ? « Dégaine ta langue, baby, et je te montrerai où la fourrer. » Un ricanement ponctua la proposition du jeune noir. Léonie ne bougea pas, coincée entre le muret et un lampadaire. « Gage des Richie, c'est une gueudin ! Trop nul, son cul, c'est de la bombe !» La voiture démarra en trombe et s'éloigna dans un hurlement de pneus. Léonie resta un moment figée sur le trottoir avant de se remettre en marche, cœur disloqué, jambes en papier. Elle ne sut comment elle retrouva le chemin du foyer. Elle aperçut soudain, au sortir d'une rue, le bâtiment familier, au mur gris, ceint d'une haute grille métallique. Les chuchotements de l'esprit mauvais s'étaient changés en tapage dans la tête et le ventre de Léonie. Il squattait son esprit, reléguant ses pensées au second plan. Elle ne pouvait en parler à personne, surtout pas aux éducatrices du foyer d'accueil. Elle la traiterait de gueudin, comme les deux Lascar dans leur voiture noire. Elle penserait que ces histoires étaient des mensonges, l'expédierait au Liberia sans attendre la commission d'évaluation, ou pire, la renverrait dans la gueule fétide de la hyène. Pour les Blancs, ce qui était invisible n'existait pas. Elle aurait pu se confier à l'IA, mais la blondinette n'avait pas remis les pieds au foyer après avoir touché le solde de ses 1 500 €. Elle s'était sans doute envolée vers le sud, entre Montpellier et Perpignan, une région où elle avait toujours rêvé de s'installer. Léonie ne comprenait pas les pensées de l'esprit mauvais. Elle captait des impressions, des émotions, des éclats de colère et de désespoir, un peu comme si son corps était une cage renfermant un fauve tantôt surexcité, tantôt abattu. La tension était parfois tellement forte qu'elle se levait d'un bond et se secouait un long moment, nue, en sueur, bouche ouverte, jambes écartées, espérant que son tourmenteur s'échapperait par l'un de ses orifices. Chienne cherchant à se débarrasser de ses puces. Chienne de vie, comportement de chienne. Elle se raccrochait à l'idée que le médicament inoculé par les deux hiboux était responsable de son état, qu'elle serait délivrée dans 2 jours, mais elle n'y croyait pas. Il parlait de réactions psychophysiologiques inhabituelles. Pas de pensées superposées, pas de remis-ménage. Elle n'avait pas compris tout de suite la signification du mot psychophysiologique. Elle n'avait pas osé demander au hibou, déjà qu'il la regardait comme une bête. Elle avait interrogé, à son retour, une éducatrice du foyer d'accueil, qui, avec un agacement mal dissimulé, avait successivement désigné sa tête, psycho, et son corps, physio. Sûr. La hyène avait filé un gros paquet de fric à un marabout pour ensorceler sa nièce aux fesses d'or. De la peau, de l'urine, des excréments, des aisselles de Léonie, s'exhalaient des odeurs pestilentielles. Si elle ne remettait pas rapidement les pieds dans le pavillon de tante destinée, elle deviendrait une charogne vivante. Elle pourrirait de l'intérieur jusqu'à ce que la vie se dégoûte d'elle.